9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé sur Beurre FM avec Maximilien Bachelard qui est avec nous. Bonjour Maximilien.
Bonjour Philippe.
Bon, je sais que vous l'attendez depuis longtemps et je voudrais vous remercier tous de votre patience, mais c'est le grand jour puisque Maximilien aujourd'hui vous propose ses stratégies de psychologie négative.
Exactement.
Alors, ça existe la psychologie négative ?
Oui, ça s'appelle du coaching. Donc je vais vous expliquer un peu, je vais vous donner 15 stratégies intéressantes dans lesquelles les gens se fourvoient et malheureusement entretiennent leurs difficultés, leurs malheurs. Donc ça, c'est le fruit de 60 ans d'expérience personnelle dans le milieu.
De
psychologue, 60 ans d'expérience personnelle.
Maximilien, vous ne les faites pas.
Donc, je sais.
Les 15 stratégies de psychologie négative pour construire son malheur, Maximilien.
L'idée, un peu, c'est de partir du constat que les gens peuvent être dans des difficultés, mais qu'il y a quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est qu'ils ont tendance à faire plus de la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à venir se confirmer ce qu'ils pensent d'eux et du monde. Et donc, on voit des gens à qui on tend la perche régulièrement et qui continuent à malheureusement se laisser couler dans l'eau, ne pas prendre la bouée, ne pas prendre la perche, se dire que c'est trop tard, que c'est foutu, les voir s'entêter, etc. Donc, au fil du temps, au fil de mon expérience, j'ai refait un peu le chemin pour préparer l'émission et je me suis dit, il y a des stratégies qui rationnellement ne peuvent pas se transformer comme ça. Et ça, c'est tout l'art d'une consultation psy, selon moi. C'est qu'il ne suffit pas de dire aux gens par A plus B comment ça se fait qu'ils coulent. C'est qu'il y a une part émotionnelle, c'est qu'il y a de la colère, c'est qu'il y a de la rancœur, c'est qu'il y a de l'histoire derrière, et que on peut pas simplement rationnellement faire changer quelqu'un qui va dans la mauvaise direction. Donc il y a toujours une différence entre ce que les gens vous disent, la plainte qu'ils ont, et puis malheureusement des stratégies qui sont a priori plus fortes qu'eux. Donc c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Mmh. Ça vous parle, ça va ?
Ça va, ouais. Maximilien. Okay. On ne peut pas faire changer quelqu'un qui va dans la mauvaise direction.
Il faut être un peu plus stratégique. Il y avait un auteur, Milton Erickson, que j'aime beaucoup, un hypnothérapeute, qui parlait de son expérience quand il était dans le milieu rural aux États-Unis. Et donc, il essaye de faire rentrer un animal, il tire par les cornes, et puis plus il tire, plus l'animal se contracte et part dans l'autre sens. Et donc il dit, j'avais 8 ans, je fais le tour et je lui tire la queue et il rentre dans l'étable. Mais le réflexe qu'on a, parfois, c'est d'utiliser un peu trop la raison et de se dire, je vais démontrer les choses, et puis ça va aller, il n'y aura pas de problème. Mmh. De la même manière que quand une femme vient me voir et me dit, mon mari ne m'écoute pas, ça fait 50 fois que je lui dis, et je lui dis, alors qu'est-ce que vous avez essayé de faire d'autre? Et maintenant, je lui dis en criant. Et je lui dis, c'est très bien, madame, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Voilà. Parce que, à ce moment-là, pour être honnête, il va falloir qu'on fasse un vrai changement, il va falloir être un peu plus créatif. Et ce qui est intéressant chez les gens, c'est que parfois, la clé n'ouvre pas la porte, et donc ils vont rester une demi-heure à essayer de faire rentrer cette foutue clé dans la serrure. Et puis par conséquent, au bout d'un moment, la serrure, elle est foutue en l'air, malheureusement. Donc c'est un peu de ça dont je veux parler. Donc c'est une espèce de guide afin d'échouer et de réussir à bien consolider son malheur, parce que vous allez le voir, les gens ne s'improvisent pas malheureux comme ça. Pour moi, il faut avoir une volonté, il faut avoir de cesse de courir les pieds entravés, et je pense que pour réussir à mettre en échec toutes les possibilités que la vie nous offre, il faut être excellemment bon dans la mise en échec. Donc je vais vous donner 15 stratégies que je relève régulièrement chez les gens. Alors la première, c'est passer son temps à régler les problèmes des autres pour ne pas s'occuper des siens. Donc c'est un magnifique subterfuge que toute personne connaît, c'est la paille dans l'œil du voisin, c'est un très bel échappatoire que même les professionnels de l'aide, comme moi, peuvent utiliser finalement pour leur éviter de s'occuper d'eux-mêmes. Donc c'est le médecin qui finit toujours à 21h, qui voit plus ses enfants et dont la femme lui dit « chérie, dans 3 mois, je demande le divorce ». C'est le psychologue qui a des soucis personnels et qui finalement voit en voir trop chez les autres, ou c'est l'infirmière qui trouve toujours des hommes en difficulté sur sa route, qui veut les soigner, qui se marie avec et qui vient me voir en consultation en me disant « vous voyez, depuis que je le connais, il n'a pas changé ». Finalement, c'est prétexter toute situation comme urgente pour prioriser autre chose que de penser à soi ou de son confort ou son bien-être, et qui se traduit finalement toujours par « il y a toujours plus urgent ou important à faire que ». La deuxième stratégie, qui est plutôt à l'inverse, c'est se plaindre, ce qui engendre la plainte.
Alors là, il faut m'expliquer.
Ben, je vais vous en parler. Donc là, on ne voit plus les autres ni tout ce qui nous entoure. On commence à regarder son nombril dans la glace. Et évidemment, on a toujours à redire sur nous. La plainte attire les gens qui veulent nous aider, en fait, qui tentent de solutionner. Puis, malheureusement, ces gens-là se fatiguent d'échouer avec nous, puisqu'en fait, le contrat, c'était... Écoute, t'es en difficulté, je vais t'aider. À deux, on est plus fort qu'à trois, que tout seul. Et puis, si t'as un problème, il y a forcément une solution. Mais avec ce type de personnes qui sont dans une plainte qui tourne en boucle, en fait, il n'y a pas à supprimer cette plainte, puisqu'en fait, il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, c'est la solution ultime. Et donc, on voit bien un décalage entre « aidez-moi, mais en même temps, ne m'aidez pas ». Parfois, c'est moins subtil. On refuse d'emblée l'aide ou les solutions pour garder même un lien culpabilisant avec les autres. Et donc là, je vais peut-être un peu froisser certains, mais ça, c'est une spécialité que font certains vieux ou les méditerranéens qui souffrent, mais on ne peut rien pour les aider, mais ils souffrent, mais c'est pas grave. Et donc, on les regarde et on a une espèce de distance où on peut pas aider et on voit l'autre en difficulté.
C'est un mode de fonctionnement, finalement.
Autonome.
La plainte comme mode de fonctionnement, voilà. Pour qu'on s'intéresse à nous.
Mais il y aurait presque un titre de bouquin à faire. La plainte comme mode de relation au monde. Voilà. Ouais. Très beau bouquin qu'on pourrait faire. Une autre stratégie, ne rien faire et attendre. Entre parenthèses, trop attendre. Donc ça, c'est la stratégie de l'autruche. On met les miettes sous le tapis, on laisse les poubelles s'empiler. Ça consiste à éviter de solutionner les problèmes. Surtout quand ils sont petits et les évacuer au fur et à mesure. Alors l'intérêt, quand vous payez vos factures au fur et à mesure, c'est que vous n'avez pas de surprise. Vous faites votre vaisselle de temps en temps, donc vous vous retrouvez pas avec une grosse difficulté à gérer. Donc la plupart du temps, quand on fonctionne comme ça, ça va engendrer des ennuis, des conflits, du désespoir chez les gens. Donc mécaniquement, en repoussant, on n'a pas fait disparaître le problème. Pourquoi ne rien faire également? Souvent parce qu'on veut éviter les conflits en pensant que les problèmes vont disparaître par magie. C'est la stratégie de se cacher derrière ses mains comme un enfant. Donc bien laisser, donc pour réussir cette stratégie, c'est simple, faut bien laisser pourrir les problèmes et surtout les ressortir quand ils sont mûrs et que c'est trop tard. Laisser les problèmes s'empiler, laisser les limites se repousser et attendre l'explosion. Par exemple, c'est refuser de parler d'un petit souci en couple et laisser l'autre nous harceler. Pourquoi pas qu'on se dise qu'il est pervers narcissique? J'ai un petit coucou à Karima, on a discuté de ça, ça lui plaît cette notion. Et jusqu'à qu'il nous quitte, en fait.
Donc, alors Karima, voyez... c'est Karima Shadibaou, hein, pour ceux qui ne...
Shubidoua, apparemment, comme on l'appelle.
Alors ça, c'est son nom de code, mais qui reste entre nous,
et
Maximilien.
Maintenant, il est officiellement publié.
Merci, Karima.
La magie des réseaux sociaux. Donc c'est un peu le principe de la cocotte minute qui monte en pression, mais sans le système de soupape. Donc c'est la chronique d'une explosion annoncée. Une autre stratégie, à l'inverse, c'est ne pas savoir lâcher quand il faut. Donc c'est insister. Ne pas laisser les choses parfois s'écouler, vouloir tordre le temps, accélérer les choses, tordre la volonté de l'autre, se dire que finalement, il faut qu'il fasse comme on le veut, et bien évidemment, dans notre sens, et quand on est prêt et quand on le désire. Donc ça renvoie à l'impatience. Impatience, l'adjectif impatient, il a des origines grecques, qui signifie souffrir, supporter, endurer, avec l'idée d'une résignation. Donc, il y a une phrase que j'aime bien de Boris Vian qui dit « Lutter n'est pas avancer ». Ça correspond tout à fait à cette stratégie. Et finalement, on est dans la question de l'acharnement, employer tous les moyens pour maintenir en vie. Mais la question qui se pose toujours, c'est à quel prix? Et bien souvent, quoi qu'il en coûte, coûte que coûte. Parce que d'une certaine manière, en fait, on n'accepte pas de pouvoir laisser quelque chose filer, quelque chose qui sort de notre contrôle. Est-ce que j'ai le temps pour une autre?
Allez, une petite avant la pub,
alors,
Maximilien.
Avoir les yeux au mauvais endroit du temps. On a deux possibilités. Soit on est tourné vers le passé, on le glorifie, plutôt que le présent et l'avenir. Donc c'est une distorsion qui est très connue. On évite de penser à ce qui ne nous convenait pas. Avant, la France, c'était mieux. Bah, avant, il n'y avait pas de machine à laver, donc c'était pas mieux. Ou alors, avant, avec mon ex, c'était génial. Puis le pote dit « Non mais en fait c'était pas génial, c'était une horreur, tu m'as harcelé pendant 2 ans à me dire que tu n'en pouvais plus de cette femme, mais là en fait t'es malheureux, et puis tu te rappelles de certains bons moments, mais ça n'allait pas. » La deuxième possibilité avec ce temps, c'est être entre l'avenir impossible et le passé qui est déjà fait, et ne pas être dans le présent. Donc très rapidement, c'est ne pas profiter de ses enfants, des réussites, des possessions, du bien-être, du fait d'être en vie. Mmh. C'est observer sa vie en regardant derrière ou en se souciant trop du lendemain. Et j'ai envie de vous dire, si vous regardez trop loin ou si vous avancez en regardant derrière, bah, vous risquez de vous prendre un réverbère dans la tronche. Donc ça, c'est la deuxième possibilité dans cette stratégie qui est d'avoir les yeux au mauvais endroit du temps. Mmh. Voilà.
Et la possibilité aussi de vivre l'instant présent, tout simplement.
Exactement.
Être conscient de ce qui se passe au moment où on le vit.
Oui, mais ça risquerait d'être une stratégie pour être heureux.
Ah ouais, mince.
Et là, on est sur le
bon, regardez, je suis complètement conscient d'être avec vous, Maximilien, et nous sommes tous conscients, tous ceux qui vous écoutent, Maximilien, que vous êtes avec nous jusqu'à 10h. Et on voit ces 15 stratégies de psychologie négative, un nouveau concept pour construire votre malheur.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors vous êtes peut-être déjà en train de vous inquiéter chez vous, puisque vous écoutez Maximilien Bachelard qui expose ses 15 stratégies de psychologie négative qu'il a élaborées dans son laboratoire pour construire son malheur, et vous avez 5 ou 6 déjà items, caractéristiques de psychologie négative.
Je sais pas si j'ai griffonné ça dans un laboratoire.
Qu'est-ce qu'il faut en déduire, Maximilien, si on a déjà 4, 5, ou même peut-être 6?
La deuxième étape, c'est de se dire, est-ce que c'est mon mode de vie? Et est-ce que je fais subir ça à mon cerveau, à ma vision des choses et à mon entourage perpétuellement ou pas?
D'accord.
Parce que, encore une fois, je vous dis, on est humain, on est tous passés par les 15 stratégies. Mais est-ce que ça devient finalement un étendard, quoi? Une façon de vivre, quoi? Est-ce que ça inonde toutes vos relations, toute votre communication, tous vos week-ends? Est-ce que c'est votre façon à chaque fois d'emporter vos amis, vos familles, vos parents, vos enfants, de voir le travail perpétuellement? Là, ça commence à devenir plus intéressant. C'est le degré finalement de contamination interne. J'ai pas encore de test, mais ça, un jour, je ferai un test.
Compteur,
j'ai
s'il vous plaît.
Voir.
S'il vous plaît, ouais.
Oula, là, il y a peut-être un peu trop.
La 11e stratégie de psychologie négative, Maximilien.
Alors, se mettre dans une posture de victime irresponsable. Donc, il y a un très bon livre que je recommande et qui plaît à 97,3% des gens à qui je le propose.
Vous l'avez vu sur Amazon, ça?
Oui, oui.
Ah, c'est ça?
Non.
Non, le test, les 97...
Je vous parle de mes statistiques personnelles.
Ah,
c'est un bouquin d'un Québécois qui s'appelle Guy Corneau. Et le bouquin est peut-être connu pour certains. C'est « Victime des autres, bourreau de soi-même ». Il est très bien, ce bouquin. Et pour moi, il est très bien parce que les gens ont compris pas mal de choses souvent en le lisant. Et je le donne en accompagnement quand ils sont en train de surutiliser certaines de ces stratégies. Donc, vous voyez, je vous donne déjà une solution au milieu du truc. Donc, pour moi, évidemment... L'objectif idéal, c'est d'essayer de devenir acteur de sa propre vie, car ne pas choisir, c'est choisir. C'est-à-dire sous-peser les conséquences de nos actes et de nos non-actions également. Adopter la posture de victime, c'est se centrer sur tout ce qui nous arrive de négatif, en rejetant toute possibilité d'y avoir contribué, même involontairement. Ça permet d'éliminer toute possibilité d'être acteur d'une amélioration de la situation. On sait bien, évidemment, que tout se joue avant 7 ans. On sait bien que les hommes, ils viennent de Mars, que les femmes deviennent de Vénus. On sait bien que nos parents nous ont infligé blessures.
Les amis viennent de Mars?
Non. Les hommes viennent de Mars.
Ah, voilà, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus.
Que nos parents nous ont infligé des blessures qui sont irréparables. Quant à notre partenaire, ce pervers narcissique, évidemment, il nous a eu. Et il aurait pu avoir n'importe qui. Donc, vous pouvez même accentuer cet effet-là, c'est d'aller voir un expert qui va remonter au-delà de votre propre existence et qui va vous dire que si vous êtes victime, c'est par descendance, que grâce à la généalogie, on arrive mieux à comprendre ce qui vous arrive, que vous êtes condamné à porter le poids des malheurs de vos ancêtres. D'une certaine manière, grâce à ça, on est à l'abri de toute possibilité d'amélioration de notre situation. Et comme ce qui est fait ne peut être défait, nous voilà piégés à jamais. Et pour que le processus fonctionne, il faut bien veiller à ce que la responsabilité de nos malheurs échappe totalement à notre maîtrise. Comme on n'est plus acteur de ce qui nous arrive, il nous ne reste plus qu'à subir ce que le monde, les autres, nous impose, tout en nous lamentant de cette injustice. Mais vous passerez ça au ralenti. La 12e stratégie...
Non, mais non, Maximilien, ce qui est important dans vos stratégies, c'est qu'on puisse les digérer là, pour qu'on passe une mauvaise journée.
Évidemment.
Sinon, c'est raté.
Je suis pas sûr que ça permette de passer une mauvaise journée, mais c'est déjà peut-être scanner un petit peu notre façon de fonctionner. La 12e stratégie, c'est s'attribuer la responsabilité de tout événement. Donc, je vous avais proposé une émission, fait 9 ans que je vous la propose, sur le syndrome de la mère nourricière. Concept que j'ai élaboré dans mon laboratoire. Et donc, ça, c'est un exemple typique du fait de s'attribuer de la responsabilité et de la surresponsabilité aux choses. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mon fils aille pas bien? Ça permet parfois de ne pas se donner la possibilité de changer ce qui est à portée de main. Et de se lamenter sur ce qu'en fait, quelque chose qui ne provient pas forcément de nous. Si mes enfants vont pas bien, tout n'est pas forcément de ma responsabilité. Si les gens passent une mauvaise soirée, c'est pas forcément à cause de moi. C'est se croire parfois en plus bien trop important.
Ouais.
Ou de prendre l'autre peut-être pour un idiot ou pour un irresponsable.
Être un peu parano peut-être, non?
Vous êtes en train de dire que le syndrome de mère nourricière, c'est une forme de paranoïa?
Je vous interroge, Maximilien.
Mais je vais réfléchir. Mais sincèrement, ça me questionne. 13e, on arrive au chiffre 13. Croire que nous savons ce que l'autre pense. Donc, comme pourrait dire Steve, the mind reading. Donc, la lecture de pensée. La surinterprétation qui ne laisse plus le choix à l'autre de nous voir autrement qu'on le croit. Le problème, c'est qu'on a tendance à partir sur une hypothèse, comprend donc pour une vérité, et donc à construire un problème sans l'aide de l'autre. L'autre hoche la tête, donc on interprète. Il nous dit merci, donc on se dit en fait il nous déteste, il se fout de nous. C'est finalement refuser de laisser une chance à la relation. Potentiellement, c'est s'attribuer un pouvoir de prédire, puisqu'on empêche l'autre d'avoir son propre avis, de nous surprendre, et donc on se confirme une fatalité d'une manière générale. Ça vous parle ?
Enfin, c'est un peu se faire des films.
Oui. Mais ça, c'est une bonne manière, encore une fois, d'utiliser malheureusement comme alibi les gens autour de nous sur cette planète et de répondre à leur place pour venir alimenter notre système autonome qui crée du malheur. Parce que vous êtes d'accord
avec... ça marche bien dans les couples, ça, Maximilien. Vous savez que souvent dans les couples, et de chacun des partenaires se fait son propre film, et finalement, la vérité n'a rien à voir avec tout ça.
Et ben, c'est justement un très bel indicateur dans un couple, parce que ça arrive forcément. Mais si ça devient le mode privilégié de relation et que ça entache 95% des échanges et qu'on peut plus parler parce qu'on est persuadé que l'autre pense un truc et inversement, ça c'est un indicateur qui nous dit que oula, ça va être chaud, va falloir déminer tout doucement tout ça parce que le couple il est peut-être justement en fatigue.
Ou peut-être se parler tout simplement.
Mais oui, mais si on se parle et qu'on continue à surinterpréter, la question elle est pas là en fait, elle est pas de plus ou de moins communiquer.
La question est où alors ?
De faire vraiment autrement. Donc pour les systémiciens qui m'écoutent, de passer à un changement de type 2, c'est-à-dire arrêter de faire plus de la même chose.
En croyant obtenir un résultat différent.
Exactement.
Et ça c'est Albert. Enfin, Albert 1.
Albert 1, Albert 1. E.
Ouais.
14e stratégie, exiger de soi des attitudes irréprochables. Et oublier qu'on est des êtres humains. Donc évidemment, là, pour après les systémiciens, je fais un coucou aux psychanalystes, vive le surmoi, c'est-à-dire tous ces interdits parentaux qu'on a intégrés, vive la discipline excessive des parents, vive les attentes irréalistes. Souvent, on n'attend pas autant de notre entourage qu'on attend de soi, et donc il n'y a pas de place pour le nul n'est parfait. La 15e et dernière stratégie, alors elle est de deux possibilités. Soit on se met à raisonner émotionnellement, parfois, en oubliant de regarder les choses de manière froide, intellectuelle, ou à l'inverse, se mettre à raisonner sur le plan intellectuel et ne pas écouter ses émotions ou son intuition. C'est-à-dire à chaque fois dégainer le mauvais objet, c'est-à-dire mettre du cœur là où il faut une clé à molette, ou mettre de la comptabilité là où il faut juste un peu de bienveillance. Donc ça amène par exemple à un management comme c'est parfois à la mode, par l'amour, alors qu'il faudrait un peu plus de choses carrées. Ou alors se mettre à raisonner un terroriste ou quelqu'un qui est en pleine crise psychiatrique, alors que la raison ne l'atteint pas du tout, et que la question, ça va peut-être être de baisser un peu le niveau sonore, d'être apaisant, et d'arrêter à ce moment-là de se dire, intellectuellement, il va comprendre qu'il fait une bêtise. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la différence entre être sur une question émotionnelle ou être sur une question plutôt raisonnable.
Ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est la raison qui parle, il y a d'autres moments où ce sont les émotions qui parlent.
Exactement. Et donc, il y a un temps pour tout. Et donc, pour pouvoir réussir à mettre en place cette stratégie, il faut commencer à mettre de l'émotion là où, en fait, il est question de chiffres. Et il y a des moments où il faut se mettre à être finalement pragmatique, alors qu'il faudra arrêter d'être pragmatique, mais simplement un peu plus humain. Voilà cette dernière stratégie.
Bien. Alors donc maintenant, une fois qu'on a les 15 stratégies de psychologie négative pour construire son malheur, je vous invite d'ailleurs à les réécouter, à les revoir, hein, pour être sûr de bien les maîtriser, hein, les posséder. Mm-hmm. Comment on reset tout ça? Comment on fait le reset des stratégies?
Alors, ça me rappelle la devise d'un collègue, Gilbert, à qui je fais un coucou, et qui me disait...
Alors Gilbert, il n'a pas de nom, celui-là on ne le connaît pas.
Non.
Encore.
Pas encore, mais
bon.
Ça viendra.
Bon.
Et qui me disait qu'une devise qui lui était chère, c'était désapprendre l'espoir pour apprendre la motivation.
Désapprendre l'espoir
pour apprendre la motivation.
D'accord.
Je trouve que c'est pas mal comme slogan. Vous voyez que si vous voulez à un moment donné, si vous n'arrivez plus à sortir de cette stratégie parce que vous les avez tellement appliquées que ça devient une seconde nature, je crois qu'il y a des questions à se poser sur est-ce que je suis vraiment en relation avec les gens? Est-ce que je préfère avoir raison ou tout perdre? Est-ce que finalement j'aimerais plutôt fustiger quelqu'un et le rendre responsable de mes problèmes, ou est-ce que je peux me donner peut-être la possibilité d'échouer et donc de gagner? Voilà, ça vous parle? Je vous vois dubitatif.
Non, je vous écoute, Maximilien. Vous avez 3 heures toute la journée pour réfléchir. Bon, et vous pourrez donc vous pourrez réécouter cette émission avec les 15... Oui.
Et je dédicace cette émission, parce que ça, c'était important pour moi, à l'Auvergne et à la Tunisie. Et les deux se reconnaîtront.
Ah, ce sont des gens?
Non.
Non, d'accord. Ce sont des régions?
En partie.
Vous voulez qu'on en parle?
Pas encore.
Ah, on n'aura pas les codes. Maximilien Bachelard qui nous laisse comme ça sur une interrogation. Mais qui sont donc l'Auvergne et la Tunisie? Je vous laisse réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous avez la vidéo de cette émission qui devrait arriver d'ici quelques jours. Un peu de patience. En tout cas, on vous demande de commenter, de poser vos questions à Maximilien si vous en avez.
Donner leur score sur 15, tiens. Allez, bonne idée. On va faire travailler un peu les commentaires. Ils seront un peu plus originaux.
Voilà, ça nous sert.
Mettez sur 15, un numéro slash 15. Je suis à 8, je suis à 9. Ou alors, c'est une horreur ce truc, il dit n'importe quoi, c'est pas un psychologue.
Non, ça, c'est pas Maximilien Bachelard. En tout cas, je le connais personnellement. Maximilien, ça enrichira vos statistiques. Merci d'avoir été avec nous et passez une très très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Ce qui est important, c'est de savoir que si vous suivez bien les 15 stratégies de psychologie négative que Maximilien Bachelard a mises au point pour vous en exclusivité sur Beurre FM, eh bien, vous serez parfaitement malheureux.
Exactement, voilà. Et de manière durable.
Ouais. Parce que si vous avez échoué à être heureux, bah, il vous reste le malheur.
Exactement.
Finalement. Comme alternative. On a vu les 5 premières stratégies, Maximilien.
Exactement.
Alors, c'est vrai que ça parle peut-être à certains qui inconsciemment se retrouvent déjà dans les 5 premières.
Hein. J'ai même envie de vous dire, si vous regardez, vous écoutez cette émission, s'il n'y a rien qui vous parle dans votre vie et dans les vies autour de vous,
c'est que vous n'avez pas de problème.
C'est que vous n'êtes pas vivant.
Non, ah
mais
bon?
Parce que les êtres humains utilisent cette stratégie. Mais moi, je parle du fait... d'une certaine manière, d'en faire une philosophie de vie, quoi. De réactiver ça avec tout le monde. De s'entêter, de continuer, de persister, de devenir excellent dans le malheur. Vous voyez? Parce que c'est des stratégies humaines qui arrivent. Et notamment celle dont je vais vous parler tout de suite. Se comparer aux autres, vouloir ce qu'on n'a pas, c'est une stratégie commune que les êtres humains utilisent. Mais ça peut devenir, j'ai envie de dire, un slogan. Ça peut devenir une philosophie de vie. Et donc, ça, évidemment, c'est rempli de biais. Évidemment, tout le monde est plus heureux que nous, on est bien au courant, de la même manière que l'enfer, c'est les autres, comme dirait Jean-Paul. Donc, encore une manière d'accentuer
On a parlé de Karima tout à l'heure, mais maintenant, il y a Jean-Paul.
Oui, Jean-Paul Sartre, qui est sur une autre planète que Karima, quoique. Ça pourrait faire l'objet d'une discussion.
Bon, donc l'enfer, c'est les autres.
Donc, c'est encore une façon d'accentuer sur le pauvre de nous, voire de déclencher une compétition malsaine en référence à un autre qu'on ne saura jamais. Donc en effet, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, notamment chez le voisin. C'est un
Ça, c'est une question d'arrosage.
Exactement. Et puis d'orientation du soleil. Mais c'est un très bon dopant de la frustration, en fait. C'est l'aliment clé du malheur que de croire au fantasme « le bonheur est chez les autres ». C'est un mode de pensée, de comportement excessivement efficace pour nourrir l'insatisfaction chronique et la fameuse quête du Graal. Le Graal, il n'existe pas. Mais courir après cette chimère, c'est excitant et ça chasse l'ennui de sa propre vie. C'est un leurre qui permet de ne pas trouver son propre chemin, mais cependant, l'illusion d'avancer fait tenir les gens.
En tout cas, regarde autour de vous, les gens passent leur vie à se comparer. Enfin,
Merci les réseaux sociaux.
Pas forcément.
Je pense que ça accentue.
Commencez par votre famille, ensuite élargissez par l'entreprise.
Mais là, vous avez accès à des milliards de personnes mieux que vous, en un clin d'œil. C'est plus les gens de votre village et les 40 personnes de votre famille, c'est des milliards de personnes qui sont mieux que vous. C'est quand même dingue, non?
Ouais, c'est fou.
C'est ça que je veux dire, c'est que ça potentialise quelque chose qui était déjà présent chez les êtres humains. La septième stratégie, accepter de faire souvent ce que l'on n'aime pas. Alors ça paraît bête comme ça, hein. Mais un peu de masochisme, ça fait jamais de mal. On fait un boulot qu'on déteste, mais on se dit qu'on ne saura pas faire autre chose, qu'on est trop jeune, qu'on est trop vieux, qu'on est inexpérimenté, qu'il y a trop de chômage. Bref, on peut aussi accepter des soirées avec des amis ou chez les beaux-parents, sans jamais rien dire et puis les accepter. Alors qu'en fait, pendant la soirée, on a envie de se pendre. Et forcément, on laisse notre état interne dépérir à chaque action. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ne pas choisir est un choix, en fait. Et que parfois, en interrogeant les gens, on se rend compte que ils ont suivi les rails. C'est pas le boulot qu'ils auraient dû faire. C'est pas les week-ends qu'ils aimeraient vivre. C'est pas la femme avec qui ils ont envie de faire l'amour. C'est pas les amis qu'ils aimeraient avoir dans leur vie. Et donc, c'est quand même très étrange parce que on a quelqu'un qui a réussi à lui-même s'autonomiser pour créer son malheur grâce à cette stratégie.
Mais si on l'a fait bien, cette stratégie, est-ce qu'on a réussi quelque chose?
Ah ben, on a réussi à se faire la preuve que d'une certaine manière, on avait une forme d'autonomie et qu'on n'avait pas besoin des autres pour se faire du mal. Ou qu'en tout cas, on utilise les autres indirectement pour se faire du mal. Parce que se dire, moi j'en ai marre, tous les week-ends je fais des trucs qui sont complètement nuls. Ben oui, mais en même temps, a priori, s'il n'y a pas eu d'armes sur la tempe, c'est quand même joli, quoi. C'est quand même joli de se lever tous les matins et d'aller dans un boulot qu'on déteste sans forcément essayer de se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais refaire mon CV, qu'est-ce que j'aimerais devenir? Et donc, on reste dans quelque chose de marécageux et puis qui continue à flotter par lui-même et à ne pas changer, quoi.
Mais vous voyez, Maximilien, des phrases toutes faites comme « ne pas choisir est un choix », c'est comme une phrase toute faite comme, par exemple, « le silence est une réponse ».
Exactement, c'est exactement du même ordre.
On en est pétri.
Ça veut dire, non, on n'en est pas pétri, je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que ça veut dire que finalement, on est condamné à la liberté. Et là, je recite encore Jean-Paul. L'humain est condamné
Jean-Paul
à la liberté. Jean-Paul Sartre.
Karima 1.
Exactement.
Huitième stratégie, Maximilien.
Rester dans des relations ou situations en espérant que l'autre change. Et ça, c'est du caviar. Donc on attend que les autres changent, c'est du désespoir en barre. Deux choses là-dedans. On ne peut changer que soi-même. Et parfois, ça peut avoir, par conséquent, une action de changer l'autre. Mais c'est dans cet ordre que ça se fait. Parfois, les gens attendent que l'autre change et on est dans un bras de fer implicite. Je reste, je me fais peut-être souffrir, mais je fais une forme de résistance passive jusqu'à que l'autre change. De l'extérieur, les deux sont aussi têtus l'un que l'autre. Les deux ont autant de mal et parfois les deux ont autant besoin l'un de l'autre pour pouvoir faire perdurer ce combat un peu bizarroïde. Certains ont besoin de combat, de se prouver quelque chose. Donc mon mari doit changer, ma femme doit changer, ma mère ne me comprend pas. Et puis finalement, ça devient une espèce encore d'objectif, de quête sans fin qui m'anime, qui anime mon esprit et qui m'obsède et qui fait que ça m'a pollué tout l'esprit. Et d'une certaine manière, on voit que le bras de fer, au départ, on se dit « l'autre ne veut pas changer ». Mais pourquoi tu veux le faire changer à ce point-là? Il y a cette question qui se pose. S'occuper des autres, finalement, avant de s'occuper de soi, vouloir faire plaisir aux autres en s'oubliant est un excellent moyen pour apprendre à ne prendre jamais soin de soi. Ne jamais être en contact avec ses besoins, ne jamais être en contact avec son bien-être, puisqu'on est trop occupé à faire changer l'autre. Ce qui pousse forcément à vouloir sauver les autres et à développer immanquablement le sens d'un certain sacrifice. Donc le sacrifice arrive dans ces situations-là, et c'est un bon argument pour aller le reprocher à l'autre. Celui qui ne demandait parfois rien de surcroît. Regarde, je tout fais pour toi. On a sacrifié notre vie pour toi. Mais la réponse logique, c'est « mais je vous ai rien demandé ». Et je vous ai pas tant demandé que ça. Mais on voit que derrière, d'une certaine manière, et c'est horrible, d'un coup de baguette magique, d'un seul, le sauveur est devenu un persécuteur et il est même devenu une victime de l'inactivité de l'autre. Vous vous rendez compte? Vous arrivez à percuter sur ce que je vous dis? Souvent, il y a ce truc-là entre les parents et les enfants, mais ça peut se retrouver à d'autres endroits.
C'est confortable d'être le sauveur, vous savez, parfois.
Et puis si vous
stratégie
deviez...
du sauveur, donc finalement, si vous deviez... on vous a rien demandé, mais vous voulez sauver le monde.
Et si vous devenez victime, vous pouvez presque devenir canonisé mythiquement dans l'image de la famille. La pauvre, elle a tout donné pour son enfant. Mais en fait, l'enfant, il se débrouillait très bien tout seul. L'enfant n'avait pas besoin d'aide à ce moment-là. Mais c'est devenu, une sorte de sous-titre. Mmh. Voilà.
Enfin, on dit, oui, alors maintenant, après les années, on dit, oui, mais les enfants, ils n'ont rien demandé. En fait, quand même, on le voit souvent en cas de séparation, on est quand même bien content que l'un des deux, des parents, reste là pour faire tourner la baraque.
Oui, mais souvent, il faut quand même se dire, entre tout ce que je donne et tout ce dont a besoin l'autre, peut-être que je donne beaucoup trop, et puis peut-être que je veux faire changer l'autre, mais je ferais mieux de m'occuper de moi, parce qu'en fait, l'autre va peut-être assez bien. De la même manière que parfois, on nous amène en consultation plein d'enfants qui vont en fait très bien.
Mais c'est peut-être le regard qu'on porte sur les autres qui pourrait changer d'abord.
Oui, mais on n'est pas là pour aider les gens à aller mieux aujourd'hui.
Ah mince.
La 9e
c'est vrai, non, mais parfois je l'oublie.
Ah, mais je sais, c'est un peu déroutant.
Et je sais que le contrat que vous nous proposez ce matin est
un
mauvais contrat, mais nous l'avons accepté comme ça.
Exactement. La 9e stratégie, c'est vouloir plaire à tout le monde. Donc c'est la logique Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Évident ce que je vais dire peut-être, mais je dois plaire au maximum. Donc plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Plaire à tout le monde, c'est être un caméléon. C'est donc ne pas être aimé pour soi. C'est simplement utiliser l'effet que l'autre nous procure en nous regardant pour survivre. Donc on est dans la question du rôle. Mmh. Et on en connaît des gens qui rentrent dans des rôles. Vous et moi, on le sait. Et puis c'est parfois compliqué d'en sortir.
Laissez-moi tranquille, moi je ne vous ai pas demandé. Je vous ai... Maximilien.
On a eu un exemple hier, Philippe. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Mais c'est la comédie des masques. Dans la société aujourd'hui, beaucoup de gens jouent des rôles.
Mmh. Oui ou non ? On est bien d'accord.
D'accord.
Mais il y a des gens qui jouent mal, il y a des gens qui jouent bien, il y a des gens qui...
Après, c'est des rôles de plus ou moins de composition.
Exactement. Mais à quoi ça sert de jouer un rôle ? Ça, c'est encore une autre question. Mais vous êtes en train de me faire changer d'émission. Je reviens dans notre émission. Mais c'est moi qui vous ai fait sortir, je sais bien. Une 10e stratégie. Allez, on passe un peu plus vite. Se porter sur les choses matérielles. Alors ça paraît évident, mais chez certains, c'est une obsession, c'est une façon de fonctionner. Les choses matérielles, elles sont parfois un maître étalon dans notre réussite. Elles peuvent nous être enlevées. Donc, par définition, elles créent une insécurité. Donc là, je fais un petit dérapage et je vais vers la pensée bouddhiste qui nous dit en substance que l'attachement, en fait, est source de souffrance, puisqu'un jour, on n'aura peut-être plus ce qui nous entoure. Donc ces possessions maternelles, elles nous permettent pas, en fait, un approfondissement d'une relation. Parce que je suis pas en relation avec une table à 2 000 € d'un designer parisien, en fait. Je suis pas en relation avec. Donc ça représente pas l'altérité, l'autre, la relation à un autre qui va nous étonner, qui va nous faire comprendre des choses, qui va nous pousser à nous adapter. Ces possessions matérielles, elles ne font que combler une envie primaire, mais ne participent pas d'une construction. Mmh. Est-ce que j'ai la possibilité d'aller sur une autre stratégie ?
Non, il va falloir justement jouer de la frustration.
Très bien.
C'est important, puisque ouais. Maximilien, on vous retrouvera dans un instant après une page de publicité pour la suite et la fin de vos 15 stratégies de psychologie négative pour construire votre malheur.
Vous-même,
ouais, c'est ça qui
tout
est
seul.
Sans aide en plus.
Ah bah, tout seul.
Jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant.